Vous écoutez RTL.
RTL Matin,
Yves Calvi.
7h45, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Elisabeth Martichoux, vous recevez donc ce matin le secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire, Sébastien Lecornu.
Bonjour à vous, merci d'être dans ce studio d'RTL, Sébastien Lecornu.
Bonjour Elisabeth Martichoux.
Vous étiez allé fin mars rencontrer une délégation djihadiste à Notre-Dame-des-Landes. J'imagine que vous tenez au plus près informé de ce qui se passe depuis 6h du matin. Nouvelle évacuation, c'est la der des der, si je peux dire.
On est dans une dernière ligne droite importante, non pas de la fin de l'opération Notre-Dame-des-Landes, puisque lorsque tout sera terminé, c'est que nous aurons réussi à attribuer chaque parcelle de terre avec un droit foncier définitif et stable à des agriculteurs exploitants. C'est vrai que ce matin, c'est un moment important, c'est la reprise des expulsions qui viennent rendre exécutoire un certain nombre de décisions de justice qui ont été prises depuis maintenant de nombreuses années. Et rappelez-vous, on avait fait ce temps de pause, en quelque sorte, pour laisser une chance à certains occupants illégaux de cette ancienne ZAD.
Il en restait combien hier soir ?
Là, vous avez entre 150 et 200 personnes en tout. Personnes présentes sur l'ancienne ZAD de Notre-Dame-des-Landes, mais avec des situations juridiques très différentes.
Celles justement, qui sont jugées encore illégales sont combien ? Représentent combien de personnes ?
Les personnes qui sont jugées encore illégales sont moins d'une centaine. Regardez typiquement ce matin, les opérations de gendarmerie ont donc démarré. Elles ne concernent pas les personnes qui ont un projet agricole, reconnue par désormais une convention d'occupation précaire. Elle ne concerne pas non plus les personnes qui ont un projet agricole imparfait. Vous savez, c'est les 15 projets qui méritent encore que les services de l'État les étudient, parce qu'ils peuvent être regroupés. Vous avez des projets qui sont de bonne foi, sérieux, mais pas suffisamment solides pour donner un droit à l'installation dans l'immédiat. Et ça, on va continuer, bien évidemment, de les examiner. Les personnes qui,
vous êtes
ce matin...
Vous êtes sûr qu'ils ne vont pas être évacués, là, dans le mouvement général.
Le général d'armée Lisuré,
directeur
général de la gendarmerie, lui-même, ce matin, est allé signifier aux personnes qui n'étaient pas concernées, justement, qui n'étaient pas concernées par cette opération-là. Ce matin, celles et ceux qui vont devoir partir, et pardon, mais qui auraient dû partir d'eux-mêmes depuis maintenant belle lurette, sont des personnes qui n'ont rien à voir avec les projets agricoles, qui refusent le retour dans la légalité, qui parfois
qui
d'ailleurs sont connectés
80 à peu près,
aux anarchistes et qui sont des personnalités qui n'ont rien à voir avec le devenir de la ZAD. Ils font de la politique de manière très violente.
Ce sont des personnes dangereuses.
Ce sont des personnes qui peuvent être dangereuses, exactement.
Pourquoi ?
C'est pour ça qu'il y a beaucoup de forces qui sont employées ce matin, parce qu'elles sont déterminées. Écoutez, plus de 80 gendarmes ont été blessés depuis le début de l'opération. Il y a eu des jets d'acide, il y a eu des jets de cocktails Molotov, il y a eu des tirs sur un hélicoptère de la gendarmerie. On a des gens qui sont extraordinairement déterminés. C'est pour ça que les forces qui sont employées, voulues par le ministre de l'Intérieur, sont proportionnellement importantes, parce que en mettant plus de 2000 gendarmes encore ce matin, c'est l'assurance aussi de garantir la sécurité des militaires
plus
qui sont employés.
2000 gendarmes.
Oui, ça fait 20 escadrons de gendarmerie en tout. C'est important, mais ça permet justement de sécuriser les lieux, ça permet de garantir aussi la sécurité des militaires de la gendarmerie qui sont engagés. Là, on progresse dans un terrain qui est en plus difficile ce matin, dans une forêt, sur lequel on va découvrir aussi le nombre de personnes qui s'y sont cachées, dans certains nombres de squats qui
vous
sont
présents. Vous ne savez pas exactement à combien de personnes vous avez affaire.
Un certain nombre d'outils de renseignement peut avoir quelques idées, mais une fois plus, nous sommes dans le terrain le plus difficile d'un point de vue topographique sur ce territoire-là. 4 à 6 squats, assez d'ailleurs disséminés sur l'ensemble de cette zone, vont être évacués dans le cadre des ordonnances de justice. Donc là aussi, la parole qui avait été donnée par le Premier ministre le 17 janvier dernier, hein, rappelez-vous, le gouvernement a toujours dit il y aura une décision sur Notre-Dame-des-Landes. Elle a été tenue. Ensuite, on a dit qu'il fallait un retour à un usage agricole de ces terres. C'est le cas, c'est en cours, c'est ce que Stéphane Travert a fait encore lundi dernier sur place. Le retour à l'état de droit agricole, mais l'état de droit aussi tout court, c'est encore ce que nous faisons ce matin.
Ça veut dire...
Et enfin, la mission aéroportuaire, c'est-à-dire la réflexion
après,
sur Rennes-Saint-Jacques, l'Atlantique, et c'est Elisabeth Borne qui s'en occupe.
Mais là, ça va durer combien de temps, là, l'opération ? Vous prévoyez
ça peut durer plusieurs jours.
Plusieurs
vous l'avez vu la dernière fois, on prend du temps, parce qu'on est sur des opérations d'expulsion, ça veut dire aussi qu'il faut consigner les affaires personnelles des zadistes, il faut aussi établir un certain nombre de procédures avec des concourants, des déménageurs, des huissiers. Les choses sont faites dans les règles de l'art, c'est ça aussi l'état de droit.
Alors, d'ici quelques jours, il n'y aura plus aucun occupant sans autorisation sur le site.
Alors, d'ici...
C'est la fin de l'occupation illégal.
D'ici plusieurs jours, et vous pouvez le compléter, de la réouverture des accès des routes, notamment
toutes
de la route départementale.
Vous avez deux routes principales, c'est ça.
Une route communale et une route départementale.
Elles ne le sont pas encore.
Alors, il faut déjà que des travaux soient faits, parce que malheureusement, elles ont été dégradées. Et notamment, je salue la résilience et la patience des élus du conseil départemental, et notamment de Philippe Gourvallet, le président du département de Loire-Atlantique, qui va devoir refaire des travaux sur cette route départementale 281. Et effectivement, là aussi, le Premier ministre y était engagé au mois de janvier. Elle sera rouverte. Tout ça peut-être peut donner l'impression que ça prend du temps. Si je leur mets
ça
juste,
a donné l'impression qu'il y avait quelques atermoiements, effet.
Non, pas d'atermoiements, ça prend peut-être un peu de temps, mais en même temps, quelques semaines, quelques mois, janvier, nous sommes au mois de mai, pour régler une situation...
Trois mois jour pour jour après l'abandon.
Une situation enquistée depuis maintenant plus de 10 à 20 ans. Donc, je vais vous dire une chose, en seulement quelques semaines, régler une difficulté aussi importante sur un projet qui avait été complètement enquisté par des équipes gouvernementales successives depuis plus de 10 ans, là aussi, je n'ai pas à rougir de ce que nous avons fait.
On suivra évidemment sur RTL, tout au long de ces trois jours, l'opération d'évacuation. Là, à l'heure où on se parle, est-ce qu'il y a des affrontements physiques? Est-ce qu'il y a, comme on l'avait vu lors de la première tentative d'évacuation?
La gendarmerie a effectivement annoncé tout à l'heure qu'à l'entrée du bois, vous avez 80 personnes qui sont au contact, comme on dit dans le jargon du maintien de l'ordre, au contact des forces de l'ordre, avec un certain nombre de feux de détritus, de poubelles ou de pneus, qui sont justement à l'entrée du bois dans lequel l'opération a lieu
pour
ce matin.
Pour faire obstacle à la progression des gendarmes.
Je pense aux gendarmes qui interviennent à ce stade, et dans les informations qui sont les miennes, je ne suis pas ministre de l'Intérieur, mais Gérard Collomb suit ça comme le lait sur le feu, il n'y a pas de blessés.
Alors Nicolas Hulot avait gagné cette bataille de Notre-Dame-des-Landes, il a perdu d'autres combats depuis qu'il est ministre de l'Environnement, de la Transition énergétique, c'est votre ministre de tutelle. Et il a dit hier sur BFM qu'il se donne jusqu'à l'été pour dire s'il reste ou non. Vous le sentez proche de la sortie?
Non. Honnêtement, non. Ce qu'il a dit hier, il a dit la même chose depuis des mois et des mois d'ailleurs. On fait semblant de redécouvrir quelque chose qu'il a toujours dit. Hein, il dit
on fait semblant. C'est pas banal.
Mais il n'est pas banal.
Ministre qui vient dire sur les ondes, quelle qu'elle soit.
Il était une personnalité issue de la société civile. On connaît ses combats. Le président de la République lui-même avait rappelé d'ailleurs à Noël, rappelez-vous, qu'il était un militant, un activiste. Et c'est bien logique. Il a toujours refusé de rentrer au gouvernement. Et il le fait parce qu'il a conscience que le moment est grave pour la planète, sur les questions climatiques. Et il le fait parce qu'il s'engage beaucoup. Il y a plusieurs choses dans ce qu'il a dit hier matin. Il y a une dimension très intime ou individuelle dans laquelle il dit « moi j'ai besoin de l'été pour réfléchir à tout cela ». Cet aspect des choses doit être respecté comme pour chaque personne qui s'engage. Mais il dit également…
Attendez, ça veut dire quoi? J'ai besoin d'avoir un certain nombre d'engagements. Il attend quoi?
C'est aussi une dimension extraordinairement personnelle que de s'engager. Quand vous avez toujours refusé de rentrer au gouvernement pour toutes celles et tous ceux qui leur avaient proposé avant, François Hollande, Nicolas Sarkozy, etc., qu'aujourd'hui, au bout d'un an, ils disent « j'ai besoin d'un peu de temps pour savoir ce que je veux en faire », ne me choque pas. Ensuite, il dit « je suis à la disposition du Premier ministre et du Président de la République ». Ce sont les règles institutionnelles. Il les a rappelées lui-même. Pour connaître en plus le Premier ministre assez bien, vous savez à quel point, en tout cas moi je peux en témoigner, il est attentif à ce que chacun de ses ministres soit à l'aise avec leurs propres convictions. Il y a toujours veillé ces 12 derniers mois et il continuera d'y veiller. Et puis ensuite il y a la dimension collective quand même, Elisabeth Martichoux. C'est-à-dire le bilan commun qu'est le nôtre en matière d'écologie, qui lui appartient en premier chef.
Justement, il vient,
mais qui appartient aussi à Elisabeth Borne, à Brune Poirson,
Sébastien
et
Lecornu.
Modestement
il vient,
à ma pomme,
il vient
sur
dire,
tout ce que nous avons pu accomplir
Sébastien
et lancer
Lecornu.
Depuis un an.
Il vient dire, mon bilan n'est pas suffisamment bon pour pouvoir me projeter encore sans réserve dans le gouvernement.
Il ne dit pas ça. Il dit la situation climatique et écologique est grave et il faut sans cesse aller plus loin et accélérer.
Le jour où le gouvernement se déploie dans toute la France pour aller vanter l'action du gouvernement, lui, la veille, il vient dire, bah écoutez, je ne sais pas. Non,
il vient dire qu'il y a une urgence pour la planète et qu'il faut sûrement en faire encore plus.
Et donc que lui-même
tout le monde ne
peut être
que d'accord avec ça. Mais
un animal politique, et vous le savez, vous êtes 32 ans, mais vous êtes déjà extrêmement formé de ce point de vue-là. Vous vantez votre action politique, d'abord, avant de donner prise aux failles, aux faiblesses.
Il n'est pas un homme politique, Nicolas Hulot.
Il n'est pas un animal politique, il n'est pas un homme politique.
Il a dit hier matin encore qu'il n'avait pas d'agenda personnel. Il n'est pas un homme politique comme les autres. Cessons pour le coup nous-mêmes d'être conformistes et de vouloir le mettre dans une...
C'est ça son problème ? C'est un problème pour le gouvernement ?
Mais non.
Est-ce que c'est un problème pour le gouvernement ?
Non. Je travaille avec lui tous les jours. Depuis un an. Je ne le connaissais pas avant. La première fois où je l'ai vu, c'est le soir de ma nomination. Ce n'est pas un problème pour le gouvernement. Voilà. Il est singulier. Il est iconoclaste. Il apporte donc quelque chose. Voilà. Après, une fois de plus, je le redis, On n'a jamais autant avancé sur les questions écologiques ces 12 derniers mois, et nous avons tous les moyens pour accomplir notre tâche et notre mission. Je peux en témoigner, notamment sur l'énergie, et vous savez tout ce qui a pu être lancé ces dernières semaines encore.
Très brièvement, vous nous dites, je ne le vois pas partir du gouvernement.
Ça lui appartient, mais je ne le vois pas partir du gouvernement.
Vous ne le voyez pas partir du gouvernement. S'il fait ça, c'est pour faire pression sur un certain nombre de dossiers.
Non.
Quel dossier
non,
pour lui
cynisme,
sera décisif? Le programme, par exemple, le programme précis de fermeture de centrales nucléaires.
Le voit tous les jours. Je n'y vois aucun cynisme et aucun calcul. Il y a juste le sentiment qu'il faut toujours avancer plus vite sur les questions écologiques.
Mais donnez-moi des arbitrages, sinon
mais les arbitrages, nous les avons en grande partie. Regardez ce que nous avons fait sur l'énergie, on a divisé par deux encore les délais d'installation d'énergie renouvelable. Lesquels?
Sur le glyphosate,
3 ans.
Il avait annoncé. Oui,
dossier qui a avancé, qui n'a jamais avancé.
Ça n'est inscrit dans aucune loi pour l'instant.
C'est la parole du chef de l'État qui s'est engagé sur le sujet.
Total, la bioraffinerie énorme de la Med qui va, il l'a déploré hier, 300 000 tonnes, il va importer 300 000 tonnes d'huile de palme, les agriculteurs, les écologistes sont hors d'eux parce qu'effectivement,
qu'il a contingenté et pour lequel il a souhaité Nicolas Hulot contingenter l'huile de palme qui sera
le patron
importée.
Total.
Mais non, là aussi, la Med, raffinerie la Med, cette raffinerie devait fermer. Le gouvernement précédent a demandé à Patrick Pouyanné, le PDG de Total, d'envisager un projet de reconversion en bioraffinerie. Il y a un engagement du gouvernement précédent sur ce sujet. On s'inscrit dans la continuité de cet engagement pour sauver 250 emplois. La balle était déjà lancée. Et donc Nicolas Hulot a demandé à Total, ce que Total a accepté, de contingenter le volume d'huile de palme qui sera importé et de se conformer aux grands labels européens et internationaux en matière de déforestation. Arrêtez aussi de voir des couleuvres là où il y a des décisions de gouvernement.
Emmanuel Macron, peut-être Nicolas Hulot, ont voulu faire plaisir à Total.
Le mot solidaire dans le titre du ministère, supprimer 250 emplois qui devait être sauvé parce que la parole de l'État a été engagée vis-à-vis de Total.
C'est le prix à payer.
Pour avoir solidaire dans le titre du ministère, moi j'assume complètement.
Sébastien Lecornu qui va aujourd'hui à Dijon vanter l'action du gouvernement. Je voulais juste choisir qu'il a une très belle exposition à Giverny. Vous savez qu'il était... il a des
président du musée des impressionnismes
de Giverny. À Giverny, une exposition. Le japonisme à voir en toute urgence.
Jusqu'au 15 juillet.
Allez, un petit peu d'art, ça fait pas de mal.
Et il vient de faire pour nous le point sur l'opération à Notre-Dame-des-Landes. Plus de 2000 gendarmes sur le terrain, moins d'une centaine d'illégaux ce matin. Les fauteurs de troubles sont parfaitement identifiés, nous a dit le secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire. L'intégralité de l'entretien est à retrouver sur le site rtl.fr.